Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle chronique de la librairie des étudiants. Est-ce que la poésie peut nous réconforter de nos chagrins d'amour et nous faire avancer dans la vie ? C'est là la question qui va nous aiguiller tout au long de cette chronique aujourd'hui. Je ne vous propose pas un seul texte, non, loin de là, mais deux recueils de poésie. Nous allons quitter les sentiers battus de la littérature française que nous avons vus jusqu'à présent pour partir outre-Atlantique et nous plonger dans les deux premiers recueils de poésie de la poétesse indo-canadienne Rupi Kaur. Rupi Kaur, poétesse de 29 ans, est sans doute la plume la plus en vogue depuis 2017. Avec son premier recueil de poésie, Lait et miel, publié dans un magnifique livre noir au dessin blanc, disponible aux éditions Pocket en mars 2019, c'est une première approche profonde et intime qui s'ouvre sur ses premiers poèmes. La seule chose que nous savons en ouvrant ce premier recueil de poésie, c'est que la rédaction s'ensuit d'une rupture amoureuse plus que difficile. Quatre parties vont structurer ce recueil. Souffrir, aimer, rompre et guérir. Quatre temps forts qui nous basculent, nous marquent et nous frappent. Des moments, finalement, que nous connaissons lorsque nous entrons dans une histoire de cœur, une histoire d'amour. J'aimerais aussi balayer l'espèce d'information tout à fait saugrenue que j'ai trouvée, qui est inscrite en quatrième de couverture du recueil. Une journaliste du Huffington Post dit, je cite, « Toutes les femmes devraient avoir sur leur table de nuit ou la table basse de leur salon ce recueil de poésie. » Eh bien, non, je ne suis absolument pas d'accord avec cette phrase. Pourquoi dire que ce recueil est spécialement dédié aux femmes ? Les hommes sensibles, il y en a, ne peuvent-ils pas se retrouver entre ces lignes ? C'est bien plus qu'un voyage dans son âme et dans son chagrin d'amour que nous propose ici Rupi Kaur. C'est un voyage sensible, au mot parfait, sur le chagrin d'amour. Un chagrin, une peine de cœur, appelez-le comme vous le voulez. Ce recueil de poésie est un remède à cette forte mélancolie de l'âme. Quatre parties, je disais, qui vont structurer ce premier recueil. Finalement, ces quatre étapes de la vie après l'amour. La première partie nous montre la naissance de la vie et les rapports entre des personnes au sein même d'une famille. On ne parle pas ici d'amour, mais plutôt d'un amour familial. Avec des mots pudiques, on ressent aussi, dans un second temps, les premiers émois entre elle et un jeune homme. De premiers émois allant jusqu'à la première fois, un moment aussi intime, unique pour chacun de nous, que l'on n'oubliera sans doute jamais. Une première fois, sans comprendre vraiment ce qu'est l'amour. Voir et s'abandonner à une première fois qui ne sera pas aussi intense que les fois d'après, finalement. Mais cela révèle aussi des premières violences entre elle et lui. Une seconde partie, souffrir, qui est bien plus dans l'idée de la création de la vie. Il y a aussi des passages de demandes de soutien. Une vision plus grande au niveau du couple. Nous sommes alors immergés dans la vie d'un couple avec les débuts timides, cette certaine fragilité de l'être qui se veut si poétique, ici. Rupi Kaur dresse aussi, le long de quelques vers, une projection sur le long terme d'un couple. En allant plus loin, elle se voit alors dans les bras de la routine. Le travail, la vie d'un couple qui ne fait que se croiser. Pour en revenir à ce couple, avec le premier homme de sa vie, nous voyons aussi les moments d'amour, les connexions que l'on peut avoir entre la personne que l'on aime et soi. Un regard, un sourire, un moment de simple complicité. Et ce contact physique, un baiser, un toucher, tout ce qui fait que les moments à deux sont délicieux, mais qui, tôt ou tard, nous feront souffrir aussi par le fait de les avoir vécus un jour, ou de les regretter maintenant que tout est fini. La troisième partie du recueil se nomme « rompre ». C'est sans doute la partie du recueil qui m'a le plus marqué. Le mot « rompre », c'est difficile à cerner, dès l'ouverture de cette partie. Et pour autant, le début est tout à fait aux antipodes du nom de cette partie. Je vais prendre l'exemple du poème page 96. Écoutez plutôt. Tu murmures, je t'aime. Ce que tu veux dire est, je ne veux pas que tu partes. Où trouver un sens au mot rompre dans un tel poème ? On cible ce qu'elle désire, dans un moment où l'on prononce quelques mots sur l'oreiller, allant jusqu'au besoin d'avoir confiance en soi. Tout bascule pour que le mot rompre prenne finalement tout son sens, dès lors que les vers nous montrent les idées qu'une jeune femme a quand elle pense à son ex-petite amie. Alors, les pensées se tournent vers le questionnement. Vers qui est-il ? Avec quelle femme passe-t-il une de ses nuits ou plusieurs de ses nuits ? Et pour autant, le mot rompre, n'est-ce pas non plus rompre aussi avec soi-même ? Ce sont des expériences étranges que de se rendre compte, à demi-mot, de l'importance que l'on a quand nous avons le cœur sur la main ou que nous sommes sensibles. À la page 110, le poème marque de ses mots cette idée du don de soi pour aider ou offrir à ce que l'on a en nous, à ceux qui en ont le plus besoin. Ce que l'on souhaite aimer, ce sont ceux que l'on s'amourache. Rompre avec soi aussi, ou comment voir ce que nous avons été, n'est pas ce que nous aurions voulu être. C'est apprendre finalement de ses erreurs pour se révéler encore meilleur aux yeux des autres. Au fil des poèmes, c'est la pensée, la réflexion sur ce qu'est une vie à deux, et puis comment nous vivons notre rapport à l'amour. Quelle place laissons-nous à ce sentiment dans nos vies ? Doit-il nécessairement se solder par une profonde souffrance en ressassant les souvenirs ? La jeune poétesse tend à nous montrer une autre voie qui se rapprocherait de l'acceptation de ce qui a été. Sortir plus grandi de la dernière relation amoureuse en nous tirant des leçons qui nous serviront dans notre rapport aux autres ou encore dans l'éveil des sentiments pour une nouvelle personne. Il faut alors se détacher des souvenirs trop douloureux, sans pour autant les oublier, et se tourner vers l'avenir et ses nouvelles perspectives. Avant de poursuivre, pour la quatrième partie du recueil et même de la suite de toute cette chronique, je voudrais m'arrêter un instant sur le poème page 144. Je crois, très personnellement, que ce poème est sans doute le plus marquant de tout ce recueil. J'ai été touché par les poèmes précédents parlant d'amour, de sentiments, de questionnements. Mais je dois vous avouer que celui-ci est sans doute le poème que nous devrions tous lire à un moment donné dans sa vie. Il conclut presque cette troisième partie de par sa beauté et sa force. J'ai longtemps hésité avant de vous le lire, car c'est un poème qui est assez long, mais je crois qu'il est beaucoup trop important pour que je ne puisse pas vous le citer. Écoutez alors ces quelques vers. Je vais vous parler des égoïstes. Même s'ils savent qu'ils vont te faire du mal, ils entrent dans ta vie pour te goûter parce que tu es le type de personne qu'ils ne veulent pas rater. Tu brilles trop pour ne pas susciter l'envie. Alors, quand ils ont bien regardé tout ce que tu as à offrir, quand ils ont pris ta peau, tes cheveux, tes secrets avec eux, quand ils réalisent combien tout cela est réel, quel orage tu es qui les frappe. C'est là que la lâcheté entre en scène. C'est là que la personne que tu pensais qu'ils étaient est remplacée par la triste réalité de ce qu'ils sont. C'est là qu'ils perdent toute combativité et te quittent en te disant « tu trouveras mieux que moi ». Tu vas rester là, debout, nu avec une part d'eux encore cachée quelque part à l'intérieur de toi et sangloter, leur demandant pourquoi ils ont fait cela, pourquoi ils t'ont forcé à les aimer alors qu'ils n'avaient pas l'intention de t'aimer en retour, et ils vont te dire quelque chose du style « il fallait juste que je fasse l'expérience, que je tente le coup, c'était toi après tout ». Mais ce n'est pas romantique, ce n'est pas chic. L'idée qu'ils étaient si engloutis par ton existence qu'ils devaient prendre le risque de la briser pour le plaisir de savoir qu'elle n'allait pas leur manquer. Ton existence signifiait si peu de choses à côté de leur curiosité à ton égard. C'est ainsi avec les égoïstes. Ils jouent des êtres entiers, des âmes entières pour satisfaire la leur. À un moment donné, ils vous tiennent sur les genoux comme s'ils tenaient le monde entier, et l'instant d'après, ils vous ont rabaissé à une simple image. À un moment, à quelque chose du passé, à une seconde. Ils vous engloutissent et vous murmurent qu'ils vous veulent auprès d'eux pour le reste de leur vie, mais à cet instant, ils ont peur. Ils ont déjà un pied dehors, sans avoir le courage de vous laisser partir avec grâce, comme si le cœur humain signifiait si peu pour eux. Et après tout ça, après tout ce qu'ils ont pris, quel culot ! N'est-ce pas triste et comique de constater que de nos jours, les gens ont davantage de cran pour vous déshabiller avec leurs doigts que pour prendre le téléphone et vous appeler, s'excuser pour la perte, et c'est ainsi que tu la perds. Égoïste. Voilà. Je crois que ces mots vont s'adresser à toutes celles et ceux qui vivent l'amour comme un éclat de vie superbe, à toutes celles et ceux qui ont le cœur sensible, que certains appellent parfois même le cœur d'artichaut, car ils vivent au travers des sentiments, à toutes celles et ceux qui sont sensibles et délicats et qui ont vécu ou qui se sont reconnus dans ce genre de situation décrit par ce poème. Je ne peux que vous inviter à lire tout le recueil de Lait et Miel. Ce poème marque de manière magistrale ce qu'est un amour vécu auprès d'un égoïste, mais surtout un amour qui est toxique. Il est difficile, insurmontable, et je crois que je manque de mots suffisamment forts pour essayer de décrire la lourde tâche qui est d'oublier un amour puissant que l'on voue à une personne, mais dont on sait que ça nous empoisonne le cœur, l'esprit, ou même la vie. Ce poème et comme un remède, aussi bien pour les femmes que pour les hommes, pour trouver un peu de force, de recul face à ce genre de situation dont nous ne sommes jamais vraiment conscients au prime abord. Je sais que c'est difficile, que notre sensibilité rythme nos humeurs, nos émotions, toute notre vie finalement. Nous pouvons être heureux et sombrer dans l'heure d'après dans un blues d'une noirceur incomparable. Alors, après avoir écouté pour la énième fois les chansons qui nous brisent un peu plus, nous prenons un crayon et nous dessinons. Nous prenons notre instrument de musique et nous composons. Nous prenons un stylo et nous écrivons. Nous sortons pour nous changer les idées, ou faire de cette rancœur âpre qui nous tabasse le cœur une leçon et une force pour ne plus jamais souffrir de cette manière. C'est ce que nous faisons tous, sans même nous en rendre compte. Et c'est comme ça que l'on apprend à guérir. Guérir, c'est le titre de cette quatrième et dernière partie du recueil Lait et Miel. Finalement, comme la vie, après avoir touché le fond, on remonte d'un coup, et l'on se surprend parfois à découvrir des choses qui nous font aimer la vie. On est lavé de cette souffrance qui est partie mourir quelque part dans le plus profond de notre être. Comme une personne neuve, pure de toute émotion dévastatrice, nous reprenons le cours de notre vie pour continuer à avancer. Le poème à la page 178 résume en si peu de mots la meilleure pensée lorsque l'on est dans le moment de guérir. Te perdre a été l'avènement de moi-même. Ce recueil de poésie est un regard sur des moments de notre vie sentimentale et personnelle. Je crois que toute personne à peu près sensible devrait se reconnaître dans un de ces vers. L'écriture de ces poèmes est tout à fait déroutante. En effet, le système de rimes que nous connaissons n'est pas présent ici. C'est une écriture dépouillée de majuscules à la ponctuation particulière qui rythme notre lecture, mais qui marque avec force les respirations, les moments de latence, pour vous faire surgir d'un poème les émotions et tout son sens. Depuis ces 12 dernières années, et avec tous les livres que j'ai lus, eh bien, je crois que rares sont ce genre de livres qui m'ont vraiment bousculé. C'est à ça que sert la littérature, nous reconnaître entre les lignes pour nous montrer une voie, pour nous bousculer et changer notre vie. Le premier recueil de poésie, Lait et Miel, de Rupicor, c'est en librairie aux éditions Pocket. Je le conseille à toutes les âmes sensibles et aimantes, c'est à lire absolument.
Il y a là la peinture des oiseaux, l'envergure qui lutte contre le vent. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les fissures fermées, les serrures comme envolées, les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là là là, si l'on prenait le temps, si l'on prenait le temps. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Il y a là les mystères, le silence ou la mer qui lutte contre le temps. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste devant. Il y a là les murmures, un soupir, l'aventure, comment mêler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont en se demandant pourquoi. On les regarde telles qu'elles pourraient être en se disant pourquoi pas.
Nous sommes de retour dans les studios de Radio Campus Grenoble 90.8. Nous venons d'écouter Vanessa Paradis et son titre « Il y a ». Oui, il y a l'amour, la littérature et des murmures dans les recueils de poésie de Rupicor. Et puis, il y a aussi la reconstruction de soi. Après avoir subi la déception de l'amour par une rupture violente, dont nous venons de parler, vient le temps de la compréhension et de la reconstruction. C'est pour cela que nous pouvons ouvrir le second recueil de poésie de Rupicor, disponible également aux éditions Pocket, dans un livre jaune très esthétique, nommé « Le soleil et ses fleurs ». Le deuxième recueil de poésie, « Le soleil et ses fleurs », signé Rupicor, est paru en mars 2020 aux éditions Nil et traduit et publié aux éditions Pocket en France. Ce rassemblement de poèmes est orienté cette fois-ci vers un soi de tous les jours. Après le vécu, l'analyse et la compréhension de l'amour, Rupicor nous interroge ici sur notre rapport personnel au monde. C'est aussi, je crois, un recueil plus axé sur notre société, le regard, les mouvements de la société. Puis, le temps du questionnement. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Comment allons-nous nous affirmer dans le monde dans lequel nous vivons? Autant de questions auxquelles la poétesse nous propose des réponses, aussi personnelles qu'altruistes, dans les 5 parties qui composent ce recueil et qui suivent le cycle de vie d'une fleur. Faner, tomber, pourrir, se redresser, fleurir. La première partie du recueil, faner, est encore un peu en lien avec le précédent livre, dont je viens de vous parler. Comme si finalement tout partait d'une déception, d'un manque, d'une tristesse. La poétesse nous montre l'importance que nous pouvons donner au vide laissé par une personne qui vient de partir, que ce soit un deuil ou alors une rupture amoureuse. Cette partie est teintée par la fausse idée que nous nous faisons quand nous aimons encore un peu quelqu'un, alors que tout est terminé. Le poème, page 24, illustre tout à fait mon propos. Les colibris me disent que tu as changé de coiffure. Je leur dis que je m'en fiche, tout en les écoutant me décrire chaque détail. Fin. C'est le questionnement du cœur et de l'esprit qui est écrit ici. Vous savez, ce genre de moment où après le coup de la rupture, quand nous sommes un peu dans le souvenir tendre et traître de ce que nous venons de vivre, qui nous rappelle vers la personne que l'on a tant aimée. Voilà, c'est ce genre de petite réflexion que nous nous faisons qui commence à surgir dans les poèmes de cette première partie du recueil. C'est aussi l'idée que nous, ce que nous avons parfois ressenti en plein voyage avec l'autre, était vrai. M'aime-t-il vraiment? Est-elle sincère avec moi ou suis-je une passade le temps qu'elle trouve mieux ailleurs? C'est aussi une forme de deuil qui est décrite ici. Accepter que l'amour vécu est mort. Le deuil aussi de la présence passée de l'être aimé. Une deuxième partie s'ouvre, nommée tomber, et qui est la plus critique envers soi-même. Quel regard donnons-nous à notre propre corps? Cette nouvelle partie nous confronte au regard des autres, mais aussi du sien. La taille, les formes qu'il peut avoir, la musculature, la pilosité, et donc nous faire perdre notre confiance, souvent trop fragile, que l'on a déjà de nous. Une partie de recueil en 2 temps qui nous expose l'évolution d'une jeune femme entourée par les autres, le regard que posent les hommes sur elle, et enfin l'affirmation de la femme. Devoir vivre en se battant contre les préjugés, une vision archaïque qu'ont certains hommes, et l'idée de femme-objet qui perdure malheureusement. De chacune des attaques portées sur son corps, sur notre corps, les poèmes de cette section nous rappellent à continuer, à avancer même face à ces propos. Cette affirmation singulière est importante, est aussi un travail de tous les jours. La troisième section qui se cache derrière le titre « Pourrir » montre toutes les difficultés rencontrées par le monde. La guerre, les migrations des peuples, la perte d'un enfant, le deuil. Avec cette section, Rupicor se livre beaucoup plus en parlant à demi-mot de l'exil qu'a connu sa famille avant qu'elle ne vienne au monde. Il est question de l'histoire de sa famille, du pays d'origine de celui dans lequel elle vit aujourd'hui, le Canada. La poétesse devient alors un lien, un pont entre 2 types de cultures, 2 modes de vie. Même en vivant bien aujourd'hui, dans de bonnes conditions, à l'abri de tout ce qui a pu ébranler le monde des générations passées, cette section nous appelle à nous souvenir d'où l'on vient pour garder les pieds sur terre. Le premier poème qui ouvre cette section, justement, page 119, ramène à l'idée du souvenir du passé. Ils n'ont aucune idée de ce que c'est de perdre sa maison au risque de ne plus jamais retrouver de maison, d'avoir sa vie entière partagée entre 2 terres et de devenir le pont entre 2 pays. Immigré. Cela m'a fait penser à un livre dont nous avons récemment parlé dans cette émission, dans le roman Le Passeur de Stéphanie Coste, qui nous montre les difficultés des traversées des migrants entre la Libye et l'Europe. J'ai repensé à cela en lisant cette section de poèmes de Rupicor sur l'idée de la traversée vers un autre pays pour sauver sa famille et même sa propre vie. Bien que la poétesse n'ait pas connu ce grand changement dans la vie de ses parents, sa poésie reste teintée de cette partie de leur histoire. Son écriture aborde de nombreux thèmes importants dans nos vies, mais sa toile de fond reste tout de même l'amour. La quatrième section du recueil, « Se redresser », n'est pas une attente, mais une demande envers l'amour pour que la prochaine rencontre soit la bonne. Je n'ai pas besoin d'amour qui m'épuise, je veux quelqu'un qui me dynamise. Que la prochaine rencontre s'éternise un peu plus que dans une nuit brûlée ou dans une amourette de passage. C'est se projeter, voir plus loin en avançant avec quelqu'un à ses côtés. Trouver la bonne personne en redéfinissant l'amour avec elle, comme le poème à la page 162. Lorsque tu commences à aimer une nouvelle personne, tu te moques de l'incertitude de l'amour. Rappelle-toi quand tu étais sûr que le dernier était le bon. Et maintenant, tu es en train de redéfinir le bon en partant de zéro. Un nouvel amour est un don. Tout reprendre de zéro et s'ouvrir au monde. C'est alors accepter que nous sommes la somme de la construction de notre famille, héritiers ou héritières de l'histoire que nous apprenons à connaître et à transmettre à notre tour. Mais est-ce à la portée de tous d'aimer véritablement quelqu'un? Allez, un dernier poème que je voudrais vous lire, qui se trouve page 207. « Haïr et faciliter et paresse, mais aimer, demande de la force, tout le monde doit, mais tout le monde n'est pas prêt à pratiquer. » Accepter d'aimer les autres, de s'ouvrir aux autres, tout en nous souvenant d'où nous venons. Aimer et accepter les autres en s'acceptant soi, en s'affirmant, c'est un peu comme le titre de cette cinquième section, c'est fleurir. Ainsi va la littérature et la poésie. Quelle chronique pour celle d'aujourd'hui! Je vous rappelle les deux titres des recueils de poésie de Rupicor, Lait et miel et Le soleil et ses fleurs, qui sont disponibles en librairie, aux éditions Pocket, dans de magnifiques livres. Laissez-vous surprendre par ces poèmes très personnels et pourtant si communs à nous tous par ces deux thèmes, l'amour et soi. Voilà, je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle chronique de la librairie des étudiants. Vous pourrez retrouver cette chronique en balado-diffusion sur le site internet de Radio Campus Grenoble. D'ici là, je vous souhaite à tous et toutes de belles lectures.